Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Jérôme Florin.
Alba Ventura, vous recevez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Vous vous rendrez cet après-midi à Avignon pour rendre hommage à Éric Masson, ce policier tombé sous les balles des dealers. Vous serez aux côtés du Premier ministre Jean Castex et du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Hier soir, vous avez pris des décisions en intersyndicale avec les policiers pour durcir les peines contre les meurtriers des forces de l'ordre. Il fallait attendre la mort d'Éric Masson pour avoir une réponse pénale plus ferme ?
Bon, d'abord, je veux redire mon émotion et mon respect pour tous les policiers, pour tous les gendarmes de France qui tous les jours travaillent dans des conditions, on le sait, très difficiles, dans une société parfois, souvent plus violente. Moi, je voudrais dire que depuis 15 ans, le doublement des agressions contre les policiers et gendarmes ont été constatés. Et on parle évidemment de la mort terrible de ce policier. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui perd entre 10 et 15 de ses membres chaque année et qui a plus de 8000 blessés en service. Deuxièmement, depuis le début du quinquennat, nous avons pris des moyens matériels et juridiques pour protéger nos policiers et nos gendarmes. Sans doute faut-il continuer à faire ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat. Et je crois que le Premier ministre a eu raison hier d'annoncer aux syndicats de policiers les mesures que nous allons détailler sans doute dans quelques instants. Mais moi je voudrais dire que ce n'est pas aux syndicats de policiers qu'on a donné quelque chose, c'est aux Français. C'est les Français qui réclament une plus grande efficacité de la police et de la gendarmerie, une plus grande efficacité de la justice.
Enfin, et ce nous sont eux qui sont entre les agresseurs et nous.
Oui, mais la main ferme de l'État ne doit pas trembler. Et il y a pu avoir, vu la succession des faits divers, des agressions de policiers et de gendarmes, des drames qui touchent nos compatriotes, il y a pu avoir un doute. Et je crois que le ministre de la Justice, moi-même, nous levons ce doute. La main ferme de l'État ne tremblera pas et nous sommes du côté des policiers et des gendarmes.
Alors justement, le meurtrier d'Éric Masson, pour l'instant il y a un suspect qui nie, mais admettons, qu'est-ce qu'il risque vraiment avec les décisions que vous venez d'annoncer ?
Ah bah, il risquait déjà, c'est déjà dans le code pénal, la perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Et 22 ans de peine de sûreté, c'est-à-dire à coup sûr, 22 ans de peine incompressible de prison. Le Premier ministre, hier, a annoncé que ce 22 ans passerait à 30 ans. C'est-à-dire que les responsables d'actes d'assassinat contre les policiers et les gendarmes seront traités comme ceux qui commettent des actes terroristes. 30 ans de sûreté.
Alors là, Gérald Darmanin, on a un suspect qui a 19 ans, avec une peine de sûreté de 30 ans, il sort à 49 ans.
Minimum. Puisque l'idée, c'est la perpétuité, c'est déjà dans le code pénal. Et ensuite, ça dépend beaucoup de la personne qui est condamnée.
Sauf qu'en réalité, des perpétuités, il y en a assez peu. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup, dans votre camp à droite, réclament la perpétuité réelle.
Non mais des assassinats de policiers, fort heureusement si j'ose dire, il y en a assez peu. C'est pour ça que le drame d'Avignon est terrible pour la police nationale.
11 cette année, 11 morts.
Non mais 11 morts, mais
cette année.
Ce ne sont pas des assassinats comme cela s'est passé pour Avignon. Dans les 11 morts de l'année dernière, il y a eu plusieurs raisons à la mort de ces policiers et ces gendarmes, notamment les délits routiers. Moi, je voudrais dire ici que ceux qui tuent en premier, vous savez, les policiers et les gendarmes, c'est les gens qui ne s'arrêtent pas sur le bord de la route. Quand j'ai pris mes fonctions, je repenserai, je crois, toujours à Mélanie Lemay, cette gendarme de 26 ans, et à sa famille qui, sur une route du Lot-et-Garonne, alors qu'elle faisait un contrôle banal que tous les Français subissent, si j'ose dire, qui est morte la jambe arrachée par un chauffard, qui est un assassin. Je constate que le policier du Mans, à 4h du matin, police secours, il va retirer les clés dans le véhicule de quelqu'un qui est arrêté à un feu rouge, et cette personne qui manifestement avait pris des substances redémarre et écrase ce policier contre un mur. C'est ça le quotidien des policiers et des gendarmes.
Mais pour revenir au cas d'Éric Masson, ceux qui réclament la perpétuité réelle, vous leur dites non ce matin ?
Moi je pense que c'est au juge de juger et qu'il faut qu'on donne au juge tous les moyens de bien juger. Et donc moi je trouve que s'il y a une perpétuité dans un code pénal, il faut savoir l'appliquer. Les 30 ans de sûreté.
C'est ça le problème.
Les 30 ans de sûreté. Bah non, le problème, ce n'est pas la séparation des pouvoirs et la justice indépendante. Il ne faut pas non plus tomber dans n'importe quelle démocratie.
Non, le problème, c'est d'appliquer les peines.
Non, mais moi, je peux constater, Madame Ventura, que la justice donne aux policiers et aux gendarmes les moyens d'appliquer la loi et applique la loi à ceux qui les attaquent. Mais il y a peut-être des textes qui étaient mal rédigés. Quand le Premier ministre annonce et c'est une chose extrêmement importante qui est passée un peu inaperçue hier, la fin du rappel à la loi. Sur 800 000 décisions de justice par an, 800 000 décisions de justice, il y en a à peu près 300 000, un petit peu moins, qui sont des rappels à la loi. C'est-à-dire que le policier et le gendarme font une enquête. Il y a eu un outrage, par exemple, contre un policier qui l'a traité de connard, j'en sais rien, excusez-moi pour votre antenne. Bon, bah, il fait l'enquête, puis à la fin, il appelle le procureur de la République, et le procureur de la République lui dit, bon, bah, rappel à la loi. Donc, vous êtes policier, vous êtes fait insulter.
Mais on découvre pas que le rappel à la loi, ça sert à rien.
Bah, non, puisque ça existe depuis 99.
Moi, ça sert à rien.
J'étais un militant pour le supprimer, je suis très heureux d'avoir été entendu. On supprime ces 300 000 rappels à la loi qui ne servent en effet à rien chaque année.
Et on en fait quoi?
Il y aura de vraies infractions qui seront vraiment condamnées, si j'ose dire, par les procureurs de la République et par les juges. Mais vous savez, on n'a pas rien fait depuis 6 mois. Moi, quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, le Premier ministre m'a demandé de travailler avec le garde des Sceaux à cette amende forfaitaire délictuelle. Hier, vous aviez un joint dans le métro à Tourcoing. Bah, je peux vous dire que vous aviez assez peu de garde à vue et assez peu d'enquête et à la fin assez peu de condamnations parce que vous aviez un joint sur vous. En même temps, chacun comprend que c'est idiot d'envoyer quelqu'un en prison pour un joint. Et en même temps, on ne peut pas laisser quelqu'un avec un joint dans la rue. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Un rappel à la loi. Nous avons créé une amende forfaitaire délictuelle. Nous payons de l'argent quand nous avons une amende.
Et en ça plus, marche, ça.
Et en plus, bien sûr, ça marche, 70 000 qui ont été mis depuis 6 mois. Ça touche le consommateur. Et en plus, ça se
fait
sur le casier.
Et les travaux d'intérêt général,
et en
pourquoi
plus,
pas.
C'est le casier judiciaire. Mais vous avez tout à fait raison. Le garde des Sceaux, il travaille. Mais vous savez, les travaux d'intérêt généraux, il faut aussi des gens pour les organiser. Moi, quand j'étais maire de ma commune, j'offrais la possibilité à la justice de recevoir dans les services techniques municipaux, auprès des plus jeunes, auprès des plus aînés, voilà, des jours où j'accueillais des personnes qui étaient condamnées et qui repeignaient les murs, comme on dit. Bah, le garde des Sceaux pousse cette proposition, elle est de bon sens. Vous savez, en gros, pour faire très vite les ansières, c'est quoi? Un, on doit connaître la réalité de la délinquance entre pays, c'est l'observatoire de la réponse pénale. Deux, la loi ne doit pas être rappelée, elle doit être appliquée, c'est la fin du rappel à la loi. Trois, quand on est condamné, on doit faire sa peine, c'est la fin des remises de peine automatiques.
D'accord. On a l'impression,
vous dites d'accord,
à nouveau...
mais c'est extrêmement non, mais, ferme.
Gérald Darmanin, on a l'impression
fort.
D'être à nouveau entré dans un cercle infernal. Il n'y a pas un week-end sans violence. Enfin, regardez le week-end dernier, Fréjus-Lyon, les Ulysses, Villefranche-Vaux, Envelin, Poissy, des policiers, des pompiers agressés. Sans compter cette haine anti-flic qui s'inscrit sur les murs à Sartrouville ou à Lyon. Comment on arrête ça? Vous aviez parlé d'ensauvagement.
Oui, je constate que le président de la République...
Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir un fait divers horrible, vous allez venir renforcer quelque chose, mettre des moyens supplémentaires,
bon,
c'est à ça qu'on doit s'attendre.
Non, mais d'abord, l'assassinat à bout portant d'un policier dans une rue, alors qu'il harcèle un point de deal, c'est pas un fait divers horrible. C'est un degré supplémentaire dans la guerre.
Vous jouez sur les mots, monsieur le ministre.
Non, je ne joue pas sur les mots, encore moins avec la mort d'un policier. Je vous permets pas de dire ça. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les policiers, tous les jours, ils sont dans les points de deal, sur les 4000 points de deal, et les démantèlent. Et s'il y a des violences urbaines, s'il y a des gens qui tirent sur des policiers, c'est parce qu'on met fin à des trafics. Parce qu'on protège les plus faibles d'entre nous quand on marre de vivre à côté des points de deal. Ça, c'est vrai. Et chacun peut le constater.
On arrête la réduction des peines limitées.
Je ne peux pas laisser dire, vous êtes une radio sérieuse, que la délinquance augmente de façon généralisée dans le pays. La délinquance, les biens, les cambriolages, les vols de voitures, les agressions contre les biens, ils diminuent dans notre pays. Les homicides ont tendance à stagner, à l'exception, vous savez bien, des actes terroristes, c'est-à-dire les meurtres. Ce qui est sûr, c'est la violence contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, la violence contre les personnes, les violences conjugales augmentent.
Est-ce qu'il n'y aura plus de réduction de peine automatique?
Oui, nous avons
plus
mis
du
fin.
Tout
oui, nous avons mis fin. Voilà. Et c'est déjà dans la loi de la République.
Et donc les prisons sont surpeuplées?
Non mais attendez, vous ne pouvez pas poser la même question de façon différente trois
mais
fois
dans
l'interview.
Mais je suis obligée de vous poser les questions, ça fait 40 ans qu'on se les pose les questions.
Bah oui, mais ça fait bien, moi j'ai 40 ans madame. Donc peut-être qu'il y a des responsables politiques qui n'ont peut-être pas fait le travail précédemment. On est d'accord. Bon, donc ce n'est pas la peine. Ce matin, alors que nous prenons une décision extrêmement ferme et que nous avons un héritage de délinquance à gérer, de se comporter ainsi. Dans la loi sécurité globale, qui est votée par la République aujourd'hui, nous avons déjà mis fin aux remises de peine automatiques pour les agresseurs de policiers et de gendarmes. Dans la loi que porte le garde des Sceaux en ce moment au gouvernement, devant le Parlement, nous mettons fin aux remises de peine automatiques. Et par ailleurs, puisque la question de la prison se pose, nous construisons des places de prison. Vous avez entendu les annonces du Premier ministre. Quand j'étais ministre des Comptes publics, on y a mis l'argent. Désormais, on y a trouvé des terrains et on les construit. La main ferme de l'État, la présence des policiers, le respect de l'autorité parentale aussi. Les parents ont une responsabilité énorme.
Si la personne que nous avons arrêtée, c'est la délinquance des plus jeunes.
Si la personne, exactement, si la personne que nous avons arrêtée est le tueur, parce qu'il y a une présomption d'innocence, oui. Il a 19 ans. De nombreux faits dans son casier judiciaire. Vous avez entendu le procureur de la République hier. Il n'est pas passé de tueur de flic, de premier communion à tueur de flic. Il est passé par des stades de délinquance, évidemment. Il y a eu une faillite. Sans doute de la société, mais à coup sûr de l'autorité parentale. Donc, la société doit se construire sur des bases très simples. Le respect des policiers et des gendarmes, l'autorité parentale qui doit être établie, et par ailleurs une meilleure intégration pour ceux qui viennent de l'étranger, une éducation qui doit écouter les plus pauvres d'entre nous, et j'espère une économie qui refonctionne. C'est tout le programme du président de la République.
Des voyous qui n'ont parfois que 14-15 ans. Les policiers disent que si on ne fait rien contre eux, on en fait des sauvages à 18 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous leur répondez?
D'abord, le grand problème.
Parce que l'ordonnance des mineurs de 45 est dépassée, finalement.
Je ne sais pas s'il est dépassé. Parce que vous savez, quand vous avez 12-13 ans, vous ne mettez pas un enfant en prison. Même s'il commet des choses très difficiles à supporter pour la société. Mais en revanche, vous ne laissez pas 4-5 ans avant de lui donner sa peine. Ce que nous avons fait, et c'est désormais aussi la loi de la République, dès le mois de septembre, nous avons changé quelque chose de considérable avec le garde des Sceaux. Hier, quand quelqu'un avait 16 ans et qu'il avait commis une bêtise, un acte de délinquance, il pouvait être condamné à 22. 6 ans après, quel est l'intérêt pour cette peine? Demain, l'obligation, c'est 6 mois à la suite de son acte de délinquance. Quelqu'un qui est attrapé à 16 ans à faire une bêtise, à 16 ans et demi, il a sa condamnation. Ça change tout. Moi, j'en ai vu des gamins de 18, 19 ans qui ont leur rappelé leur acte de délinquance quand ils avaient 12 ou 13 ans. Quelle est la vertu pédagogique de cette peine? La certitude de la peine vaut mieux que sa férocité. Rapidité, augmentation du budget de la justice, rapidité, décision plus rapide des juges, encadrement des enquêtes, c'est ce que propose le garde des Sceaux. Quand vous faites une bêtise, ben vous êtes condamné tout de suite.
C'est un sondage qui est révélé par le journal L'Opinion et réalisé par le CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. 44% des policiers et militaires voteraient Marine Le Pen au premier tour, 60% au second tour.
Personnellement, je n'ai pas besoin de sondage du CEVIPOF pour savoir qu'effectivement, il y a un problème avec une augmentation très forte de Marine Le Pen dans la réalité des urnes. Mais
il y a une nouvelle tribune de militaires, vous avez vu, dans Valeurs Actuelles, qui a recueilli 211 000 signatures militaires en activité, alors de façon anonyme.
Excusez-moi, mais ce n'est pas sérieux. Il y aura bientôt plus de signatures que de militaires. Bon, donc un texte anonyme.
Ce sont des gens qui soutiennent cette tribune.
Une tribune d'anonyme. Bon, si je faisais une tribune d'anonyme de journalistes de RTL contre vous, vous diriez, mais qui sont ces anonymes courageux? Bon. Donc soyons sérieux, ce débat...
Vous avez vu que les Français soutiennent dans les sondages.
Le débat de l'autorité, que les Français soutiennent l'autorité, ça ne m'avait pas échappé.
Est-ce qu'on se cache les yeux en disant une grosse machination politique, comme le dit la ministre des Armées, on se voile la face?
Moi je trouve que les gens courageux, ils donnent leur nom. C'est pas comme, les militaires ne deviennent pas, en tout cas certains militaires ne deviennent pas comme certains anonymes sur les réseaux sociaux. Bon, on est tous en train de condamner l'anonymat. Voilà. Donc, qui donnent leur nom, et puis s'ils ont des idées politiques, qui se présentent aux élections. En France, les choses sont libres. Par ailleurs, je pense qu'effectivement, qu'il y a au moins une manœuvre grossière est ratée, voilà, comme on dirait sans doute dans l'armée. Je constate qu'il y a des grandes voix militaires pour prendre la parole et pour rappeler que l'armée de la République n'est pas l'armée contre le peuple et contre la démocratie.
Éric Dupond-Moretti, candidat au départemental dans le Pas-de-Calais, au régional, dans le Pas-de-Calais, qui ferraille avec Marine Le Pen. Vous trouvez que ça porte ses fruits?
Moi, je trouve que c'est toujours bien quand les femmes et les hommes politiques se présentent devant les électeurs.
Comme vous le faites vous-même, d'ailleurs, à Tourcoing.
Moi, je n'ai aucun mérite. Je pense que c'est la légitimité d'un élu, c'est d'être élu. Mmh. Excusez-moi cette tautologie. Éric Dupond-Moretti, qui n'a rien à prouver à personne dans son parcours méritocratique, lui qui est né à Maubeuge, qui est issu d'une famille populaire, qui est devenu un grand avocat pénaliste, qui s'engage en politique, c'est pas super évident de s'engager en politique, qui se présente devant le suffrage des électeurs dans une élection qui est loin d'être facile.
Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas des dossiers un peu chauds, brûlants et...
Mais la démocratie, vous pensez que c'est pas un sujet chaud et brûlant? Vous pensez qu'on peut rester dans son bureau ministériel à pérorer sur la vie du monde sans jamais voir un habitant de ce pays? Non, je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut, il faut avoir les mains là où il faut, c'est-à-dire dans la glaise, écouter les gens, se faire engueuler sur les marchés. Ça contribue plus largement à prendre de bonnes décisions que les notes de certains de vos conseillers.
Merci Gérald Darmanin.
Merci.